Bonne feuille. 40 romans de la rentrée littéraire, lus par leur auteur. Aujourd'hui, juste avant l'oubli, d'Alice Zénitaire.
C'est le début de Bouvard et Pécuchet de Gustave Flaubert. Comme il faisait une chaleur de 33 degrés, le boulevard Bourdon se trouvait absolument désert. Plus bas, le canal Saint-Martin, fermé par les deux écluses, étalait en ligne droite son eau couleur d'encre. Il y avait au milieu un bateau plein de bois et sur la berge, deux rangs de barriques. Au-delà du canal, entre les maisons que séparent des chantiers, le grand ciel pur se découpait en plaques d'outre-mer et sous la réverbération du soleil, les façades blanches, les toits d'ardoise, les quais de granit éblouissaient. Une rumeur confuse montait du loin dans l'atmosphère tiède et tout semblait engourdi par le désœuvrement du dimanche et la tristesse des jours d'été. Deux hommes parurent. Donc voilà, c'est le début de Bouvard et Pécuchet, un livre dont je trouve que la drôlerie est injustement méconnue et qui, moi, me fait hurler de rire. J'aime beaucoup rire quand je lis, j'aime beaucoup rire quand j'écris aussi. Et ça m'arrive. Ça m'arrive de me faire à moi-même des blagues pendant que j'écris et généralement, ça me met très bonne humeur. Ce qui est très très bien avec Bouvard et Pécuchet, c'est qu'on peut vraiment le reprendre par bribes, puisque c'est une succession de choses que font Bouvard et Pécuchet ensemble et très souvent une succession d'échecs. On peut vraiment se dire, tiens, je vais relire les 5 pages où ils décident de se mettre à cultiver des poires anciennes. Ou tiens, je vais relire les 5 pages où ils s'attellent à ceci, au fourrage. Enfin, c'est... Et donc, on peut en lire quelques pages avant d'aller se coucher, apprécier l'humour un peu cruel de Flaubert envers ces deux hommes et qui passe par un style un peu ridicule. Enfin, il parle de leurs pantalons qui godent aux chevilles. Enfin, il y a des mots comme ça qui sont assez que je trouve assez incroyables et très amusants et très doucement cruels. J'arrive pas à imaginer être écrivain sans être une lectrice et je suis une lectrice absolument fanatique, absolument amoureuse. Les écrivains que j'admire, c'est pour moi des compagnons de route pour toute la vie. C'est des gens qui me nourrissent. C'est des gens qui sont capables de m'arracher à mon existence quand je vais pas bien et de la rendre encore plus belle même quand je vais bien. Donc je pourrais pas imaginer ce que c'est de ne pas être lectrice. Donc voilà, je recommande de lire quelques pages de Bouvard et Pécuchet ici et là tout au long de l'année pour se porter bien.
Bon ben nous, on va recommander de lire quelques pages de Juste avant l'oubli, qui est le titre de votre nouveau roman Alice Zénitaire, qui paraît aux éditions Flammarion.
Le problème du nom. Franck avait la malchance de porter son prénom. Il le savait. Certains prénoms vous tuent à l'instant qu'ils vous nomment. Franck était persuadé, jusque dans ses moments de bonheur les plus intenses, qu'il aurait pu avoir une vie meilleure sous une autre identité. Les gens ne le regardaient pas de la même manière que s'il s'était appelé Guillaume ou Théo. Les gens le regardaient de la manière dont lui regardait les Kevin. Il végétait sans grâce, au bas de la hiérarchie des prénoms. Sa mère n'avait jamais expliqué les raisons de son choix, ou il ne les avait jamais comprises. Elle disait qu'elle trouvait ça joli. Elle lui citait de nombreuses personnes que le prénom Franck n'avait pas empêché d'accéder à la réussite, à la joie. Sinatra, Zappa, malgré le grand écart musical que demandait la juxtaposition de ces deux noms, Provo, qui régnait sur un empire de cheveux, et une horde de footballeurs et de véliplanchistes couverts de titres et de médailles. Curieusement, elle incluait à la liste Benjamin Franklin, comme s'il s'était appelé Benjamin Franklin, ce que Franck crut tout au long de son enfance. Pendant ses années de lycée, il avait essayé d'oublier cette blessure tenace en se plongeant dans les jeux de rôle. Là, on l'appelait, au moins pour quelques heures, seigneur des montagnes, guerrier du royaume perdu, Uman le magnifique. Il versa brièvement dans l'écriture de Space Opera, qu'il ne poussait jamais plus loin que les premières pages, juste pour le plaisir de donner à des kyrielles de personnages des noms qui signifiaient quelque chose, des identités radieuses. Il avait montré ses feuilles volantes un jour à Émilie. Il les conservait encore, dans une chemise en carton qui s'abîmait au coin, et elle les avait trouvées intéressantes. Mais ses échappatoires étaient éphémères, comme le lui rappelait tous les matins l'appel fait en cours et l'énoncé morne de son état civil. « Franck Le Mercier ?» demandait une voix dépourvue de magie. Il levait la main presque à contre-cœur, espérant chaque fois, l'espace d'une seconde, que quelqu'un d'autre réponde présent, assume la responsabilité de ce prénom qui lui pesait tant, et qu'il se réveillerait comme d'un cauchemar trop long pour découvrir qu'il s'appelait autrement. Est-ce que la fleur que nous appelons Rose, sous un autre nom, s'en tirait aussi bon ? Demanda un jour le fragile professeur d'anglais qui peinait à les initier à Shakespeare. La classe dormait devant tant de pédanterie inutile, mais Franck, lui, comprenait instinctivement l'interrogation du poète. Et il y avait déjà répondu. Non, bien sûr que non. Si les roses s'appelaient Franck, on ne parlerait pas tant de leur parfum. Et probablement, à force de n'être plus senties ni citées, les roses Franck, par une sorte d'évolution darwinienne, perdraient lentement toute odeur. Rien ni personne ne se démène à produire de la beauté en pure perte. On avait plusieurs fois suggéré à Franck de changer de nom. Il n'avait même pas à faire de démarche officielle, simplement à demander aux autres de ne plus l'appeler Franck, ou à utiliser son deuxième prénom, Joseph, hérité d'un grand-père qui n'existait plus que sur les photographies. Pendant quelques années, il porta au cœur, à chaque nouvelle rencontre, l'espoir fragile qu'il aurait la force pour une fois de mentir. Mais était-ce mentir que de taire ce prénom qui ne lui ressemblait pas, qui ne disait rien de lui, et de se présenter autrement ? Il savait cependant qu'il était trop tard. Il avait déjà été façonné en tant que Franck, il avait hérité des complexes et des incertitudes du Franck. Un nouveau nom ne serait plus désormais qu'un vernis inutile. Franck était infirmier. Lorsqu'il l'annonçait aux gens, il remarquait souvent que ceux-ci voyaient son métier comme la conséquence d'un échec en fac de médecine, comme s'il s'était rabattu sur ce poste à défaut de ceux plus prestigieux qui lui avaient échappé. Il leur expliquait alors doucement qu'il n'était pas infirmier par pis-aller, que c'était un choix qui s'était très tôt imposé à lui. À la mort de son père, les infirmiers lui avaient laissé une bien meilleure impression que les médecins, des oncologues, aussi prompts à apparaître qu'à disparaître, comme si les patients très vite les lassaient et qu'ils éprouvaient le besoin d'un nouveau jeu. Les infirmiers, eux, ne s'ennuyaient jamais au contact de la maladie, affirmait Franck à ses interlocuteurs. Ils savaient que soigner était un travail de longue haleine, une assistance bien plus qu'un miracle. Les infirmiers étaient ceux qui maintenaient patiemment la vie sur les lits machines des hôpitaux, ceux qui connaissaient les familles, les prénoms et les odeurs des malades. Franck avait tout de suite su qu'il appartenait à leur armée discrète et résistante. Il arrivait aussi qu'à l'annonce de son métier, les gens lui demandent s'il portait quelque chose sous sa blouse. À cela, il n'expliquait rien. Il ne le méritait pas. Il prenait une pause cigarette, sa deuxième de la journée, à côté du local à poubelle, en regardant le soleil faible, hésiter entre finir l'été et commencer l'automne. Et il était perturbé par le nombre de pensées différentes que son cerveau s'efforçait de suivre. Il voyait la cigarette diminuer entre ses doigts, conscient qu'aucune de ses directions n'aurait le temps d'être pleinement explorée avant qu'il n'écrase son mégot. Et cette angoisse l'entraînait encore vers une nouvelle réflexion. Faut-il parvenir à mettre de l'ordre dans sa vie pendant les brèves pauses que l'on s'accorde au cours de la journée, ou vaut-il mieux se laisser voguer sans penser à rien ? Souvent, Franck aurait voulu ralentir le monde comme un film, en conservant pour lui seul une vitesse normale qui lui aurait permis de prendre de l'avance. Il écrasa la cigarette sur le plastique vert de la poubelle et rentra. Le service des urgences de l'hôpital Bichat était un joli bordel comme à l'ordinaire. Il y avait une grosse dame plantée dans l'entrée, munie d'une valise pareillement grosse. Elle attendait que l'on s'occupe d'elle avec la détermination farouche de celle qui ne ferait pas le premier pas. Le personnel soignant, probablement vexé, répondait à son attitude en faisant semblant de ne pas la voir. Franck, comme les autres, l'ignora et retourna s'occuper du cas qu'il avait accueilli plus tôt dans la journée. Un braqueur malheureux, blessé par un commerçant plus armé que lui. Les infirmiers s'étaient aussitôt lancés dans un débat visant à établir si le patient l'avait bien cherché, s'improvisant juriste, afin de définir ce qui relevait ou non de la légitime défense. Franck, qui d'habitude aimait ce genre de discussion autour de la machine à café, n'avait pas exprimé d'opinion. Pour lui, ce jour-là, tout homme doté d'une arme et de l'intention de s'en servir était un imbécile qui n'avait que deux options. 1. Mourir, 2. Gâcher la journée de Franck en atterrissant aux urgences de l'hôpital Bichat. Ceci, bien sûr, à condition que l'homme et l'arme se trouvent dans le 17e, 18e, 19e arrondissement ou dans la commune de Saint-Ouen. Il aurait bien voulu ne pas avoir à s'occuper de patients déchiquetés par des balles parce qu'il partait le lendemain pour un voyage compliqué, mais heureux, et qu'il aurait aimé pouvoir ne penser qu'à ça. Il avait toujours peur de ne pas avoir suffisamment pesé les choses avant de les accomplir, et donc peur que les choses puissent surgir devant lui et le prendre au dépourvu, simplement parce qu'il n'avait pas fait l'effort de préparation qui consiste à les penser de bout en bout avant de les vivre. Son patient était déjà dans le coma au moment de son arrivée. De l'avis des médecins, il ne se réveillerait probablement pas. Franck lut sur sa fiche qu'il avait 19 ans. « On ne tue pas les gens de 19 ans, merde, ce devrait être un principe universel. » « Je me dis souvent que tu es trop gentil ou trop con pour faire ce métier », lui glissa Leïla, une aide-soignante, en lui prenant la fiche des mains. Elle avait des excès de sympathie bourrue quand elle constatait la détresse de Franck. Parfois aussi, elle lui offrait des biscuits au chocolat. « On dirait que tu vas pleurer à chaque mauvaise nouvelle. » Elle n'avait pas tort. Franck avait souvent envie de pleurer et de vomir. Au petit matin, quand il rentrait de ses gardes de nuit, il regardait des comédies romantiques et des dessins animés, sa préférence allant aux quatre volets de l'âge de glace, jusqu'à ce que les images de l'hôpital soient remplacées par celles de beauté blonde, de sourires blancs, d'animaux pleins de bonne volonté. Il basculait lentement dans un monde où les mammouths et les dodos existaient encore, un monde qui niait la possibilité même de l'extinction, où l'on poursuivait une noisette avec une maladresse si poussée qu'elle en devenait un tour de force, où les reliefs de la banquise semblaient n'avoir été formés que pour servir de toboggan, un monde qui glorifiait l'entraide entre des espèces qui auraient dû se dévorer et qui assurait le spectateur que les méchants seraient punis, qu'un génie sommeillait en chaque imbécile et que toutes mes aventures se terminaient par une chanson. Lorsqu'Émilie le trouvait devant la télévision en se levant, elle lui passait la main dans les cheveux avec un sourire compatissant. Elle ne s'asseyait que rarement à côté de lui dans le canapé. Le monde des animaux parlants ne l'intéressait pas beaucoup. Elle faisait une thèse sur Galwyn Donnell. « Le pape de la cruauté », disait-elle parfois en ne plaisantant qu'à demi. Elle avait reçu l'année précédente l'autorisation du duc ou du seigneur. Franck ne savait plus quelle branche à demi éteinte de l'aristocratie écossaise possédait encore cette terre, de se rendre sur Miralet, l'île où l'auteur avait passé les dernières années de sa vie, afin de mener à bien ses recherches. Elle était partie depuis 3 mois, et bientôt Franck prendrait à son tour une combinaison compliquée d'avions et de bateaux pour aller à sa rencontre. Même si, ces derniers temps, leur relation avait été difficile, l'éloignement avait prouvé à Franck qu'il ne pouvait pas vivre sans Émilie. Il avait pris la décision de le lui dire en toute humilité, et si elle le voulait bien, d'être heureux avec elle jusqu'à ce que la mort les sépare. Il lui restait 4 heures de service, dont probablement une dernière pause cigarette, et il pourrait se concentrer uniquement sur cette perspective. Ce visage au-dessus de lui, au moment de reprendre conscience, et qui lui imposait une proximité odieuse, ce visage de garde malade ou de prostituée, où se mélangeaient les lignes nettes du maquillage et le flou des traits empâtés, souriait paisiblement avec l'air de vouloir dire « Tout va bien ». Or, tout n'allait pas bien. Extrait des Lèvres pâles de Galwyn Donnell. Je pense que j'avais envie de parler de ça d'entrée de jeu. Enfin, la manière. On sait très bien qu'un nom, c'est très important pour les gens dans la vie et pour nous, écrivains. Du coup, le fait de nommer un personnage, c'est toujours un exercice extrêmement compliqué. Et très souvent, on cherche un nom qui va refléter les qualités ou les défauts qu'on a prêtés au personnage. Et moi, j'avais envie de faire l'inverse. C'est-à-dire, au lieu d'aller chercher un de mes prénoms masculins préférés, d'en prendre un qui était pas, voilà, qui était pas du tout considéré comme un beau prénom, comme un prénom un peu majestueux, et de dire, bah, ce personnage que j'aime et que je vais accompagner, je vais faire le choix de lui donner un prénom que j'aime pas et on va réfléchir tous ensemble à ce problème du nom. Au problème que ça pose à Franck lui-même, au problème que ça me pose en tant qu'écrivain et au problème que ça peut poser au lecteur aussi de suivre quelqu'un qui s'appelle Franck Lemercier qui a priori pas un nom de héros de roman. J'ai beaucoup de tendresse pour mes personnages, mais je pense que J'aime bien aussi ne pas les prendre au sérieux, enfin, que cette idée du héros de roman qui serait, qui aurait besoin d'être sérieux, qui aurait besoin d'être Werther, qui aurait besoin d'être, je sais pas, cette boule de sentiments ou d'intelligence pure ou de, on est tous un peu ridicules dans la vie. Et je pense que c'est quelque chose que, voilà, c'est quelque chose que j'ai envie de développer, la manière dont on peut créer des alternances dans le regard, que ce soit sur nous-mêmes ou sur un personnage de roman, passer de c'est un être absolument ridicule à c'est un être absolument sublime, et travailler sur ça.
Alors que la jeune femme qu'il va aller rejoindre sur cette île, elle se prénomme Émilie, on l'a entendu. Émilie, vous aimez ?
Oui.
Elle est d'emblée plus sérieuse.
Elle est présentée en plus les premières fois où on va parler d'elle. Elle est présentée par le biais du regard de Franck, donc avec une aura de mystère et de beauté qui lui donne une dimension autre. Et en même temps, elle aussi, on va s'apercevoir au fur et à mesure du roman que non, elle peut pas être juste cette sorte de déesse qui apparaît dans sa beauté muette. Elle aussi, elle a ses problèmes. Elle aussi, elle a ses moments de bassesse. Elle aussi, elle est tout à fait humaine. Et l'amour qui voudrait qu'une personne ne soit jamais ça est un amour un peu idiot. Il y a un jeu autour de la littérature, autour du plaisir de la fiction, et autour de l'amour aussi, enfin, que ce soit l'amour entre les êtres ou l'amour de la littérature. C'est un livre qui interroge ça énormément, et je pense que j'avais envie dans ce livre de faire, c'est pas vraiment un manifeste, mais de faire une déclaration d'amour à la littérature aussi, de dire, souvent, l'amour de la littérature, c'est vu comme quelque chose de très désincarné, de très poussiéreux, de très élitiste. Mais en fait, c'est un amour comme les autres. Il se fait pas sans éros. C'est un amour qui est capable de nous prendre aux tripes. C'est un amour qui est capable de nous enflammer complètement. C'est un amour qui fait que des gens vont dédier leur vie à avoir une relation imaginaire et fantasmée avec un auteur mort depuis des années, des siècles. Et cette histoire d'amour entre eux et l'auteur disparu qu'ils étudient, elle va occuper une place considérable. Et donc, c'est pas un amour si différent de celui qui existe dans un couple réel, comme peut l'être celui de Franck et Émilie, et j'avais envie de parler de ça. What would it take to gain acceptance? To the grounds behind your eyes. You know I'm open to suggestions. One you made we never tried. You let it slip right out from under your breath, and it rolled around my head. Though it was nothing I'd consider, I knew it had to happen then. Stood on the banks of the Potomac. We watched the water rushing by. You said we should live in the moment. But then I'd miss you all the time. On vient d'entendre Artifact One de Conor Oberst. En fait, j'ai découvert cet artiste par la littérature. Et ça, je trouve ça assez fabuleux, puisque c'est Jonathan Franzen, qui est un fan absolu de Bright Eyes, la formation qu'avait Conor Oberst avant de faire ses albums en solo. Et en lisant Freedom, voilà, il place un concert de Bright Eyes à un des chapitres du livre. Et de la même manière que moi, je jouais un peu avec Galwin Donnell dans Juste avant l'oubli, en lisant le roman de Franzen, je me demandais, est-ce que cette musique existe réellement? Est-ce qu'on parle d'un groupe qui existe? Et évidemment, j'ai refermé le livre avec cette soif au ventre. Il fallait absolument que je sache si c'est quelque chose de réel ou pas. Et donc, j'ai découvert cette musique comme ça. Et il y a notamment un passage dans cette chanson qui me touche beaucoup et qui me... voilà, qui me semblait retrouver, rejoindre l'atmosphère de Juste avant l'oubli, où il dit « Le monde est plein de personnes manquantes, j'aime ces mystères non résolus. Si quelqu'un dit qu'il sait quelque chose de façon certaine, c'est qu'il essaye de vous vendre quelque chose. Et quand moi je commence à réfléchir sur toutes les questions qui demeurent posées, la seule qui importe réellement, c'est quand est-ce que je reverrai ton visage. »
Merci.
All of these unsolved mysteries. If someone says they know for certain, they're selling something.
C'était Alice Zeniter qui présentait son roman Juste avant l'oubli, à paraître aux éditions Flammarion. Les bonnes fêtes. Sandrine Trainer, Anne-Vanessa Prévost, Somani Na, Jean-Louis Deloncle.